Alors, 6h04, chers amis, nous sommes mardi 27 octobre. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 FM. Les prévisions météo sont nettement meilleures aujourd'hui que ce qu'on a connu hier, c'est-à-dire que c'est un peu couvert ce matin. C'est autour de 3 ou 4 degrés. Ça va grimper à 6, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura du soleil avec quelques nuages en alternance. Ça se poursuit en soirée. La nuit prochaine, pas chaud, autour de moins 1. Et le refroidissement éolien, moins 5 degrés. Et pour mercredi, ce sera généralement couvert. Il y a peut-être un peu de pluie ou de neige demain matin. Ce sera à surveiller. Pas d'accumulation de prévue. Maximum de 9. Jeudi, nuageux. Faible risque d'averse, 7. Et vendredi, couvert. Maximum 3 degrés. Et je sais qu'il y a des gens qui, évidemment, regardent un peu le week-end en pensant à l'Halloween. Pour l'instant, on prévoit du temps ensoleillé samedi avec un maximum de 5 degrés. Bon, ben, 28 jours supplémentaires, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault hier au point de presse de 17 heures, en disant qu'il y a trop de décès, que le système de santé demeure fragile et qu'on a besoin de temps, non seulement pour garder la courbe sur un plateau, mais avec l'objectif de faire descendre le nombre de cas. Il y aura toujours des cas COVID au Québec pour les prochains mois. C'est une réalité. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un vaccin efficace et largement administré dans la population, on va vivre avec ce virus. Mais pour le système de santé que nous avons, ça demeure trop élevé. Alors, pas question de rouvrir les restaurants, pas question de rouvrir les gyms. Tout ce qui a été fermé continue d'être fermé, malgré la grogne, malgré les protestations des restaurateurs, des propriétaires de gym, autres commerces qui sont touchés. Le premier ministre, hier, nous a dit « Regardons ce qui se passe ailleurs, ça va nous consoler un peu, parce que c'est pire en Europe. » D'ailleurs, l'Europe est considérée actuellement comme un peu l'épicentre de cette deuxième vague. Mais tout le monde sait qu'un épicentre, ça se déplace. Et si ça appartient en Chine, l'Europe a été touchée. L'Amérique également risque de se faire frapper. Je regardais les chiffres ce matin, puis je les partage avec vous tout de suite, là, concernant la situation en Europe. En France, on s'attend à un durcissement des mesures parce que les cas, le nombre de cas, là, c'est extrêmement élevé. Par exemple, on regarde là, les chiffres qui ont été publiés pour la journée de lundi. C'est 26 000 nouveaux cas de COVID officiellement diagnostiqué en l'espace de 24 heures. Et pour reprendre les propos du président du Conseil scientifique français, l'augmentation quotidienne se situerait autour de 100 000 par jour. On avait prévu qu'il y aurait cette deuxième vague, mais nous sommes même surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 10 jours. Alors, on demande aux Québécois cet effort supplémentaire. Il y a des sondages, je vais y revenir tantôt, mais qui montrent en gros que les gens adhèrent, continuent de suivre les mesures, mais il y a comme une espèce de sentiment, de lassitude, je dirais, de fatigue. On le fait, mais peut-être avec moins de discipline, puis peut-être moins convaincu que le printemps dernier. Et là, on se dit... Il y a des gens du réseau qui m'écrivent, là, de la santé, qui disent, il y a des variations, c'est sûr, selon l'endroit où on se trouve, mais grosso modo, là, la situation n'est pas catastrophique dans les urgences. Même, c'est assez tranquille dans certains établissements, mais le problème est réel concernant les patients non-COVID qui sont en attente de chirurgie. Il y aura toujours une liste d'attente. Elle a explosé le printemps dernier parce qu'on a fait du délestage et pas parce que les gens ne se présentaient pas, là, comme M. Legault aime le répéter, mais parce qu'on manquait de personnel. Et je vous donne des exemples encore ce matin de situations dans le réseau de la santé où il manque beaucoup de personnel dans certains établissements. Et je pourrais vous donner... Évidemment, plusieurs exemples de ça. Il manque 25 personnes. Il y a des gens qui sont à la maison parce qu'un membre de la famille a eu un diagnostic positif, parce que l'enfant a été sorti de l'école. Bref, c'est un réseau qui est déjà fragile, c'est un réseau qui est faible, et on essaie de limiter l'impact. Puis là, il faut rattraper les cas. Parce que beaucoup de gens attendent. Et on va se le dire, il y a des chirurgies qui sont surtout pour améliorer la qualité de vie, puis il y en a d'autres qui sont vitales ou qui risquent, s'il n'y a pas cette chirurgie, de malheureusement faire en sorte que le pronostic ne soit pas si bon, qu'on va perdre des patients. Docteur Champagne, oncologue, président de l'Asso, le disait la semaine dernière. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment ça va? Quelle est votre morale? Dans Le Devoir, la directrice du Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire en santé mentale, Sonia Lupien, qui connaît très bien toute la question du stress, dit que le problème du gouvernement actuel, c'est de ne pas montrer la lumière au bout du tunnel. C'est d'opter pour une stratégie petit bout par petit bout, parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Tu sais, encore hier, on dit, regardez, là, le 23 novembre, mais peut-être avant. La semaine passée, on va se donner encore la fin de semaine. On savait tous, on n'est pas des idiots, là, que ce serait prolongé. Tu dis, pourquoi tu ne le dis pas tout de suite? La semaine passée, le docteur Arruda, 46 % des cas de COVID en milieu de travail. Question au point de presse. C'est pas si grave que ça. C'est 2-3 cas par endroit. Ça se gère très bien. Hier, c'est devenu un problème. Hier, on a dit, ben là, il faut envoyer des inspecteurs, puis il va y avoir des blitz, puis on va fermer des... Pourquoi c'était pas un problème la semaine passée? Pourquoi ça l'est devenu? Pourquoi on le voyait la semaine passée? Même chose pour les cas de centre de soins de longue durée. Je dis pas que c'est aussi sérieux qu'au printemps, mais ça demeure quand même assez élevé, merci. Là, quand vous regardez le nombre de cas dans certains établissements, je regardais le tableau qui a été présenté par Radio-Canada. Le cas le plus lourd, c'est à Marieville, en Montérégie. 38 pensionnaires infectés. 68 employés ont la COVID depuis le début de l'éclosion. Et une quarantaine sont toujours en isolement. Au centre de soins de longue durée de Sainte-Croix, donc 19 patients sont décédés. C'est quand même beaucoup là, dans un seul établissement. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on l'a échappé? Il y a d'autres cas qu'on pourrait également mentionner. Donc, il y a des foyers chauds, des endroits, des sites d'éclosion où il y a des morts en nombre très élevé, puis du personnel de contaminer. Alors, quand Mme Lupien dit « les gens veulent », et je reprends l'expression du docteur Carl Weiss, le fil d'Harvey est où? Qu'est-ce qui m'attend dans les prochains mois? Puis c'est pas d'être en train de faire des pronostics ou des projections. La réalité, c'est quoi, là? C'est qu'on arrive au mois de novembre, à un mois de Noël, puis on sait que les gens vont se fréquenter durant le temps des fêtes, là. Si vous pensez que les Québécois vont rester enfermés, puis qu'ils, tu sais, ça n'arrivera pas. Les gens ont besoin de se voir, puis la période des fêtes va être différente, mais c'est sûr que ça va se passer. Donc, les Québécois, là, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment le gouvernement, la santé publique, est en train de réfléchir sur la période des fêtes. Et il y a des propositions qui arrivent, entre autres de parents ou encore d'enseignants. Là, je sais que la FAE, il va de cette proposition de prolonger les vacances de Noël dans les écoles au Québec. Hier, on a vu la décision, là, à partir de lundi, troisième secondaire, 1/2, comme 4 et 5, une journée à l'école, une journée à la maison. Donc, on sait qu'il y aura des rassemblements de famille durant Noël, durant le jour de l'an. Pourquoi pas prolonger, se donner une période de confinement, là, pas d'école, puis après ça, reprendre sur une base plus solide, peut-être plus sécuritaire. M. Legault a dit non. Peut-être qu'il faudrait y penser. Il a dit non parce qu'on a déjà perdu assez de temps le printemps dernier. Oui. Mais est-ce que c'est une mesure qui peut être efficace? Alors, c'est ça le portrait. Puis finalement, arrive le dossier des restaurants puis des gyms. Le communiqué est tombé hier en disant on défie le gouvernement. Jeudi, on rouvre. Je comprends le message. C'est un peu particulier de voir qu'il y a un Hells Angels qui devient porte-parole dans le dossier. Là. Puis la manchette ce matin, les Hells défient le gouvernement Legault. Les Hells qui ne courent pas après la pub habituellement assez discret. Ben, là, ils sortent public, là. Ils se présentent pas comme EL, mais c'est le pro-gym sur Hochelaga. C'est en face d'un poste de police. Des gens qui me disent que c'est sûr que les policiers n'ont pas le droit d'aller s'entraîner là, tu sais, puis c'est un commerce légal. Bon. Mais est-ce qu'on va vraiment défier? Puis là, là, c'est un défi aussi quand même important pour le gouvernement. Vas-tu imposer les amendes? On a vu les étudiants, là, ils étaient 80 et plus en Outaouais, puis ils ont tous eu un constat d'infraction. Fait que tous les gyms qui vont être ouverts jeudi, là, parce que tu as les autres propriétaires qui disent « Moi, je ferme, là. » Alors, eux vont-ils ouvrir? Puis est-ce qu'on va les fermer? Est-ce qu'on va envoyer des inspecteurs par la police? C'est un peu ça aussi, la question. J'y vais tout de suite avec un petit survol à travers le monde, justement concernant les mesures. Et il y a de plus en plus de protestations. Exemple, en Italie, parce que là aussi, il y a une augmentation des cas, le premier ministre a décrété que les restaurants étaient fermés et les bars aussi à partir de 18 heures, tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois. Et les scientifiques se demandent même si ça va suffire pour endiguer cette deuxième vague. Des milliers de personnes ont manifesté en Italie contre cette mesure et les rassemblements ont dégénéré dans plusieurs grandes villes. L'Espagne a imposé un nouvel état d'urgence ainsi que des couvre-feux. Notamment la Catalogne qui réfléchit à imposer un nouveau confinement à la population à domicile pendant le week-end. Pas juste là, limiter les contacts et aller à l'épicerie, mais vraiment un confinement durant la période du week-end. Et mardi, les 2,2 millions d'habitants du Pays basque ne pourront entrer et sortir de leur région et de leur commune que pour des motifs très précis. La Norvège a présenté une série de mesures pour se prémunir contre le scénario observé en Europe. Vous pouvez opérer de petits tours de vis maintenant ou adopter des mesures vigoureuses ultérieurement. C'est ce qu'a dit la première ministre. Nous avons choisi la stratégie de la prudence avec de petites restrictions maintenant. Déjà obligatoire dans les transports en commun, où la distanciation physique n'est pas possible, le port du masque va être imposé dans tous les espaces publics à Oslo, où les bars, déjà contraints d'arrêter de servir à minuit, ne pourront plus accepter de nouveaux convives après 22 heures. Ça demeure ouvert, mais avec des restrictions. Fait que c'est un peu ça le portrait ce matin. Puis ce qu'il faut retenir, je pense bien, c'est que les gens ont besoin d'un message clair, puis pas de... Tu sais, jeudi, c'est une affaire, puis mardi, c'en est une autre. Je comprends que la donne peut changer, mais pas sur le fond. Pas sur le fond. OK, dans les autres nouvelles, quand même, on fait le tour. D'abord, aux États-Unis, la juge Amy Coney Barrett a été assermentée, donc c'est le choix du président Trump. Une femme qui a un bagage juridique quand même impressionnant, mais qui est aussi connue comme étant quelqu'un de droite, quelqu'un qui a des valeurs religieuses très importantes. Et on sait que M. Trump l'a nommée justement pour teinter davantage, et c'est toujours ça que les présidents font, là, la Cour suprême. Et comme elle est jeune, pour accéder à la Cour suprême, ça veut dire qu'elle est là quand même pour un bon nombre d'années. Nathalie Normando, c'est maintenant terminé. Je vous le disais hier matin, c'est encore une espèce de coup du DPCP, d'étirer la sauge jusqu'à la dernière seconde, là, puis de nous faire croire que vendredi, la décision n'était pas prise, que ça ira lundi. Donc, c'est terminé. Alors, elle sera avec nous tantôt. Et elle n'a pas exclu la possibilité de déposer des poursuites. C'est une saga judiciaire qui n'a aucun sens. Quand vous lisez le jugement Perrault, qui est bétonné et qui montre quoi? Appelons ça des opérations de pêche, des opérations de magouille au sein de la police. Je ne vais pas y revenir plus en détail ce matin. Je vous en parle souvent. De ce qui se passe au sein de l'UPAC, de ce qui se passe au sein de l'appareil policier au Québec, c'est rien pour ramener la confiance des citoyens. Alors, au moins dans son cas, c'est maintenant terminé, puis on verra s'il y aura des recours. Il y a aussi l'auteur Yvan Godbout, qui était pris avec ce roman, là, Hansel et Gretel, puis on disait qu'il y avait du matériel pédophile là-dedans, décision cinglante du juge Marc-André Blanchard, qui a carrément tasser les articles du Code criminel en disant que c'était trop large, que ça n'avait pas de bon sens, ce que le DPCP et les enquêteurs avaient fait là-dedans. Mais lui aussi, finalement, il n'y a pas de cause en appel. Pour ce qui est de Montréal, il y a toujours ce sondage de Radio-Canada qui nous montrait quoi hier? Que Mme Plante, c'est à peu près 40 % son niveau d'appui. Et contrairement à ce qu'on voit ailleurs, là, en Saskatchewan, gouvernement réélu, Nouvelle-Zélande, première ministre réélu, la crise permet d'aller chercher des renouvellements de mandat, puis quand on est minoritaire, de devenir majoritaire. C'est pas le cas de la ville de Montréal. On ne connaît pas non plus qui seront les adversaires de Valérie Plante. Et le sondage, le volet qu'on présente ce matin, la majorité des gens arrivent au Québec à garder le moral. Les Montréalais, c'est 73 %. C'est plus difficile, c'est plus dur pour les jeunes, mais le moral, quand même, est pas si pire dans les circonstances. Les gens de 65 ans et plus disent garder le moral à 86 %. Ça tombe à peu près la moitié, le 56 % chez les plus jeunes. Mais la donnée peut-être que Mme Plante et Projet Montréal devraient retenir, c'est que les banlieusards de la communauté métropolitaine de Montréal ont une meilleure opinion à l'égard de leur ville que les Montréalais par rapport à la leur. Plus tu t'éloignes de Montréal, plus tu as une bonne opinion de ta ville. C'est quand même assez pas pire comme donnée. À Montréal, 67 % des répondants ont dit être assez ou très fiers de leur ville. Et plus vous vous éloignez, ben plus ça grimpe, finalement. Et il y a toute la question de l'aménagement, puis la quiétude. Les gens sont finalement plus heureux, plus ils sont loin de Montréal, d'après le sondage. 6h22 minutes. On retourne vers Repentigny. Est-ce que les gens sont heureux à Repentigny de se lever en plein milieu de la nuit, de se faire un petit lunch, de vivre dans leur char et tenter de se retrouver au bureau le plus vite possible?
Non!
OK.